Octave Mirbeau, Sur la route. L'autre jour, j'ai rencontré sur la route le vieux Ibir. Il ramassait les feuilles sèches pour couvrir ses navets. Je lui appris que la Chambre avait voté l'expédition de Madagascar. Ben oui, fit-il. Qu'est-ce que c'est que encore que cette manigance-là? Car le vieux Ibir se méfie maintenant quand la Chambre vote quelque chose, et même lorsqu'elle ne vote rien. Au seul mot de Chambre ou de député, instinctivement, par un geste rapide, le bonhomme garantit de ses deux mains ses deux poches, comme s'il y avait encore quelque chose à prendre depuis le temps qu'on y puise. C'est, lui répondis-je, ben que nous sommes trop riches, que nous ne savons que faire de nos millions. Faut bien les dépenser joyeusement. Bien entendu, je ne parle pas des 15 000 jeunes gars de France qui vont aller pourrir dans les marais de là-bas. Des soldats, c'est leur métier de pourrir quelque part, pas vrai? Mais on ne pouvait pas trouver mieux pour cela que Madagascar. J'entends bien. Bon, j'ai un petit-fils qui est mort au Tonkin, un petit neveu qui est mort au Dahomey. Il y a au village bien des familles qui ont des morts très loin, un peu partout sur la terre. Oui, mais ça doit rapporter beaucoup, sans doute. Oh, certes, père Ibir, beaucoup d'embêtements, beaucoup d'impôts, beaucoup de larmes, sans compter l'imprévu qui est toujours terrible. J'entends bien, dit le père Ibir en hochant la tête. Mais il réfléchit quelques secondes et il poursuivit. Mais si autant de millions, pourquoi qu'ils ne les emploient pas à réparer nos routes? Regardez, si ça fait pas pitié, c'est à peine si je puis mener ma brouette. Tantôt, je me suis encore fichu par terre à cause des trous. Les chevaux y crèvent, les harnais s'y rompent, les voitures s'y brisent. Non, vrai, ça n'est pas juste. Est-ce qu'ils ne devraient pas d'abord coloniser la France? Le bonhomme s'assit sur un des bras de la brouette et il gémit. On a plus de 4 ans qu'on nous promet de la refaire, cette route. Mais j'ai plus d'espoir. Oh, par exemple, au moment des élections, ça va bien. C'est-à-dire que 8 jours avant le vote, on amène par-ci par-là quelques mètres de cailloux. Puis on voit apparaître la grande écrémeuse à vapeur. Elle souffle, elle ronfle, crache de la fumée, fait un tapage de tous les diables. Et la gens voyez circule dans les villages en criant: Oh, on va vous en faire une fameuse route. Seulement, il faudra voter pour les candidats du gouvernement. On vote, et le lendemain, quand le tour est joué, l'écraseuse à vapeur s'en va, les petits tas de cailloux d'hommes sur les berges, et la gens voyez qu'on n'en voit plus, rigole au café en se fichant de nous. On ne nous a donné qu'un peu de fumée, et c'est tout. Mais aussi, pourquoi votez-vous? Je ne sais pas. Tout le monde vote, je vote comme tout le monde. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? À force de voter pour l'un, pour l'autre, tantôt pour un bleu, tantôt pour un blanc, tantôt pour un rouge, on se dit qu'on tombera peut-être une fois sur le banc. Oh, il n'y a pas apparence, mon père Ibir. J'entends bien. Il passera encore bien des candidats sur les routes. Ah, et à propos de route, il faut que je vous demande de m'expliquer une chose qui me tracasse depuis longtemps. Il est vrai que je n'ai pas beaucoup d'instructions. Voyons ça, Périvire. Voici l'affaire. Je suis astreint, comme tout le monde, à travailler 3 jours par an sur les routes. Moi, mes outils, mon cheval et ma voiture, si j'en ai. On appelle ça des prestations. Bon, je veux bien. C'est juste. Au jour convenu, j'arrive. Mais on ne m'emploie qu'à des travaux ridicules et qui riment à rien. Pour vous en donner une idée, il y a 4 ans, j'avais un cheval et une voiture. Le cantonnier chef me commande d'aller chercher du caillou à 2 lieues de là, au bas de la côte de Mondure, que vous voyez d'ici. J'y vais. Il n'y avait pas de cailloux. Il n'y en avait pas depuis plus de 15 ans. Celui-ci en avait pris un mètre, celui-là un autre, et tout le monde avait chipoté un peu sur le tas. Bref, le caillou avait disparu. Alors je dis au cantonnier chef, bien plus de cailloux. Le cantonnier me dit, oh, j'ai pas entré là-dedans, qu'il y ait du caillou ou pas, c'est pas mon affaire et je m'en fiche. Mais c'est la consigne que tu ailles en chercher, tu le charries sur la route, allez, retourne-y. Je dis au cantonnier, mais comment veux-tu que je charrie une chose qui n'existe pas? Et le cantonnier me dit, oh, fais comme si elle existait. Alors, je suis reparti, et pendant les 3 jours de prestation, moi, mes outils, mon cheval et ma voiture, nous avons fait la navette entre Bondur et la route pour charrier ce caillou que je savais ne pas exister. Comment trouvez-vous ça? Ah, c'est le mystère de la sainte administration, Père Ibir. J'entends bien. C'est pas tout. J'ai donc fait mes prestations. Ça n'a servi à rien, c'est vraiment. Enfin, il aurait pu y avoir du caillou. C'est ce qui vous trompe, Père Ibir. Il n'y a jamais de caillou nulle part. L'homme passe son temps à charrier du caillou qui n'existe pas. S'il y avait du caillou, il n'y aurait pas d'administration et vous seriez heureux. On ne peut pas concevoir une pareille folie. Ben, j'en reviens à ce que je voulais vous demander. Ça vous ennuie de travailler sur les routes. Vous aimez mieux payer vos journées de prestation que de les faire. Alors vous allez chez le percepteur et lui donnez votre argent. Bon, mais qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Voilà ce que je voudrais savoir. Eh bien, ils en font des expéditions de Madagascar. Ils en font des cuirassés qui sautent, des cuirassés qui coulent. Cet argent, ils le donnent à leurs amis et connaissances, ce que je sais, moi. À des fournisseurs qui volent sur le blé de la farine, sur la viande du soldat, sur les bidons, sur tout, mon pauvre Père Ibir. J'entends bien, mais les routes, elles s'en passent. Mais puisque c'est de l'argent exclusivement attribué aux routes, raison de plus. Le Père Ibir, les poings sur les genoux, me regardait anxieusement de ses petits yeux clignotants. Il dit, « Bon, j'y comprends rien. » Mais sans doute tu n'y comprends rien, bonhomme. Car si tu comprenais quelque chose, tu ne voudrais pas vivre en cette misère physique, en cette abjection morale où tu croupis depuis tant de siècles et où te maintient l'effort combiné triomphant de toutes tes perversités humaines. C'est parce que tu ne comprends rien à rien que l'État et l'administration qu'il représente dans ses besognes meurtrières s'acharnent sur ta vieille carcasse et que chaque jour, à toute heure, à toute minute, il t'arrache un peu de ton intelligence, de ta volonté, de la force obscure et latente qui est en toi à ton insu. Le jour où tu comprendras, c'est-à-dire le jour où tu arriveras à la reconnaissance de toi-même, à la conscience de ton individualité, tous ces fantômes, car ce sont des fantômes, qui font ton corps douloureux et ton âme prisonnière, disparaîtront comme disparaissent au rayon de la lumière matinale les bêtes nocturnes qui rôdent en quête de charogne et de proies vivantes dans les ténèbres. Mais ce jour-là n'est point venu, Père Ibir. Aucun calendrier n'emporte la date. Le Père Ibir se leva avec effort. Il regarda la route quotidienne, creusée de ressauts et d'ornières, où depuis 80 ans, il avait charrié vers des buts inconnus, des choses qui n'existent point. Et il dit, « Oh, tout cela me fait mal à la tête. J'aime mieux ramasser mes feuilles. »